France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Merci Lionel et à demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec de nouveaux invités.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne, France Musique.
Nous recevrons ce soir dans ta page nocturne l'artiste sonore Pally Meursault qui fait de la collecte timbrale un langage, transformant le microphone en écriture. Mais je vous propose, comme il est de tradition, d'ouvrir cette émission avec notre escale phonographique. Alors François, avec quoi venez-vous ce soir ?
Eh bien Bruno, je vous propose d'écouter une Madeleine, puisque c'est une pièce qui date de 1970 et que l'on doit à la compositrice Béatrice Ferreira. Béatrice Ferreira se produira d'ailleurs en concert le 4 mars prochain à l'occasion du festival Crack qui se déroulera du 3 au 5 mars à Bruxelles. On pourra également écouter des œuvres de Brunhilde Ferrari ainsi que les Français d'Accident du Travail parmi un grand nombre d'autres artistes. Mais revenons à l'Orvietan. L'Orvietan était un remède distribué au XVIIe et XVIIIe siècle, mais il s'avéra que cet antidote créé par un charlatan était inerte. Cette œuvre de jeunesse de Béatrice Ferreira est composée en deux parties, la première électronique et la seconde concrète. Près de 50 ans après sa création, il est frappant de constater à quel point cette œuvre a su garder sa vitalité et un sentiment d'urgence si contemporain. Nous écoutons un extrait de L'Orvietan par Béatrice Ferreira.
Thank you.
L'Orvietan, par Béatrice Ferreira, qui sera en concert le 4 mars prochain à Bruxelles dans le cadre du festival Crac.
Sleeping in Vilna est un quatuor transnational qui allie poésie et des textures sonores, écrites et improvisées. On y retrouve Mike Ladd, dont la voix nous emmène dans des chansons étranges et bigarrées qui puisent leur richesse dans de multiples genres, du rock au hip-hop en passant par la musique contemporaine, la pop, l'électro et bien sûr les musiques improvisées. Énumérer les genres ne suffit pas à définir ce drôle d'objet sonore qui se classe justement dans une musique sans étiquette, en prise de liberté. La démarche est belle et le résultat surprend, déstabilise puis rapidement séduit, jusqu'à devenir un album qui nous rafraîchit les oreilles avec de l'inhabituel. Tout d'abord parce que le discours ne se dilue pas dans d'inutiles effets de style visant l'inouï, mais aussi en raison des qualités intrinsèques de ces courtes pièces qui ont des allures de manifestes esthétiques. L'univers minimaliste de Carole Robinson et les guitares flottantes de Dave Randall créent d'inattendus climats éthérés, inspirant au batteur Dee Crossbrust des chants de percussion aussi discrets qu'essentiels. Mike Ladd, rocker récitant, rappeur, poète ou slameur, improvisateur, investit chaque morceau et y appose sa signature vocale qui mêle douceur et rugosité à la matière de l'écorce. Extrait de ce drôle d'opus avec Angels Crazy.
Speech was hedging bets when we were free men before the jet set, before the gold left, before the red threat. Jumping on planes, making angels crazy. Jumping on planes, making angels cry. Rose high in the shadow of Mount Rainier. Fog rolls in. Played the broom till the death of my fifth year. Fog rolls in. Ever since then, the days are fret, glide in and out like the company kept. Slide up and down with the tour to the next. Slide up and down one tour to the next. Jumping out planes, making angels crazy. Jumping out planes, making angels late. Jumping out planes, making angels crazy. Jumping out planes, making angels late. Since then the days are frets, gliding and out like company kept. Slide up and down one girl to the next. Play the room to tears till there no tears left. Play the room to tears till there no tears left.
Angels Crazy de Sleeping in Vilna, un disque paru en 2012.
France Musique.
Artiste, compositeur et électroacousticien, Pally Meursault pose son écoute et capte les sons avec une curiosité, une constance et une précision rares. Ces sons, qu'ils proviennent de l'activité d'un atelier de typographie, d'un orage tonnant dans les massifs alpins ou d'objets trouvés au hasard, Pally Meursault les travaille, les sculpte et les restitue en les installant, en les donnant à entendre en concert ou en les fixant sur des disques. Entre deux projets et collaborations, Pally Meursault a trouvé le temps de faire une pause et de venir au studio 107 de la Maison de la Radio nous parler de son travail. Il est l'invité de ce tapage nocturne.
Pally Meursault, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous dites que vous explorez la musicalité cachée de la vie quotidienne.
Oui, pour parler ça, il faut que je commence par dire que le cœur de mon activité musicale tourne autour de la prise de son, du geste de prise de son. Petit à petit, je me suis intéressé plutôt à des sons qui ne sont pas immédiatement beaux ou nobles et qui vont se trouver dans des environnements urbains ou industriels, à des choses qui peuvent ressembler un peu à des déchets sonores, parfois des choses un petit peu délaissées dans l'environnement sonore, particulièrement ce qui pourrait ressembler un petit peu à de la pollution sonore, les choses qui émanent des industries ou les bruits de climatisation ou de moteurs qu'on peut trouver dans les environnements urbains. L'idée, c'est pour moi qu'il y a presque plus d'importance dans la manière dont on écoute que dans un son qu'on qualifierait à l'avance, et que tout phénomène sonore, il y a peut-être une manière de l'écouter, il y a quelque chose de pertinent à y entendre.
Votre travail est centré autour de la notion d'enregistrement sonore, donc field recording ou enregistrement de terrain en français. Comment cette pratique a évolué au cours du temps ?
La pratique de la prise de son a évolué au cours du temps, tout simplement parce que je viens des arts plastiques et j'ai pas vraiment de formation musicale au départ, et la prise de son s'est imposée pour moi au début comme une manière facile pour quelqu'un d'incompétent de produire des matières sonores. Puis petit à petit, à force, je suis un peu à mon corps défendant devenu un peu plus compétent. Du coup, à la fois le travail de prise de son s'est affiné, mais il s'est replacé aussi dans un processus de création. Moi, je prétends pas faire du field recording. Pour moi, c'est un arsenal technique, c'est des méthodes, c'est des manières de faire. Mais je fais de la musique électroacoustique et il y a quand même de plus en plus une bonne part de mon travail qui est un travail de studio.
Alors vous évoquiez cet intérêt pour les sons mécaniques, vous êtes également intéressé plus précisément aux environnements de production, les fabriques, les ateliers. C'est un intérêt principalement esthétique ou même symbolique pour vous ?
Pour moi, c'est oui, il y a évidemment plusieurs intérêts à cela. Il y a sans doute évidemment un goût pour les musiques industrielles qui était là dès le départ et qui m'a amené à tendre l'oreille vers ce type de son. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'écouter les sons dans leur dimension sociale et politique. Et évidemment, les sons industriels, les sons urbains, on ne peut pas échapper à cet aspect-là. Et ça permet, pour moi, c'est quelque chose qui me permet aussi de replacer mon écoute et mon travail par rapport à des contextes, en essayant de les interroger. Dans les sons industriels, quand j'ai travaillé dans des ateliers d'imprimerie, par exemple, c'était étonnant de me retrouver à cet endroit à suramplifier ce qui s'y passait, alors que tous les gens qui y travaillaient de manière beaucoup plus sérieuse que moi, a priori, se protégeaient les oreilles. Et du coup, ça interroge sur le sens de ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on révèle, sur les différentes manières d'entendre ces sons-là. Et évidemment, tout ça influe beaucoup sur la réflexion qui accompagne le travail de création.
C'est quoi un paysage sonore pour vous aujourd'hui, en 2017?
Justement, un paysage sonore, c'est à la fois toute cette complexité qui tient à la fois de dimension acoustique, mais aussi de dimension sociale, de représentation du monde, de contenu politique qui peut y avoir dans le son, qui peuvent émerger. Moi, c'est quelque chose qui m'a invité, pour le côté plus esthétique de l'approche, c'est quelque chose qui m'a invité à me re-questionner autour de la notion d'objet sonore, les pratiques de la musique électroacoustique, ce que je trouve de très intéressant par rapport au paysage sonore, c'est que c'est des entités complexes, c'est des choses qui sont chargées de premier plan, d'arrière-plan, de choses qu'on peut pas séparer. Une fois qu'on les manipule en studio, c'est un petit peu un défi de composition et ça impose justement de s'affronter à cette complexité, de questionner du coup sa position de manière très littérale en tant que preneur de son dans un endroit, pourquoi on est là, quelle relation on entretient avec les choses, qu'est-ce qu'on fait apparaître à l'intérieur d'un paysage sonore. C'est une question qui devient beaucoup plus complexe que simplement qu'est-ce qu'on choisit comme son qu'on générerait en studio.
Vous diriez que ce concept de paysage sonore depuis les années 70 s'est étoffé, a pris justement cette dimension réflexive?
J'espère qu'il est en voie de le faire. Personnellement, je suis très critique de l'approche du paysage sonore qu'on peut trouver chez Murray Schafer ou Bernie Krause. Je pense que c'est des positions très idéologiques, très limitées, et que je veux croire qu'il y a une manière un peu plus critique d'aborder ça, justement en intégrant un petit peu ces questionnements plus complexes, sociaux, etc., culturels, qui écoute quoi, à quel endroit. Et à mon avis, c'est quelque chose, même si évidemment les travaux des années 60-70 ont été fondateurs et très importants, c'est quelque chose qu'il faut continuer de complexifier, de rendre critique, de rendre réflexif, etc.
Thank you. Pour revenir à votre pratique, et c'est quelque chose de peut-être un peu plus naïf, vous diriez que le microphone, c'est votre instrument de musique ?
J'ai beaucoup dit ça à une époque, et peut-être que ça fait longtemps que je ne me suis pas reposé la question. Mais oui, il y a certainement quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, cette approche du field recording, du paysage sonore pour produire mes matières électroacoustiques m'a beaucoup porté, par exemple, en donnant du mouvement à la prise de son, en incluant le corps du preneur de son, le micro lui-même, et à composer, à moduler, à travailler des choses de l'ordre de la composition, en tout cas dès le moment de la prise de son. Du coup, ça implique un rapport un peu instrumental au micro. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de mes outils de captation. Certains sont des micros du commerce, très chers ou un peu moins chers, etc. Mais il y a aussi beaucoup de choses que je fabrique ou que je transforme moi-même pour les adapter à une idée précise. Et là aussi, c'est un petit peu un rapport au micro comme un instrument.
ces matières sonores que vous captez, vous intervenez dessus. Intervenir sur le son, c'est votre façon de composer ?
Alors moi je m'interdis rien, justement c'est pour ça que je dis que je ne fais pas du field recording en tant qu'esthétique, parce que encore aujourd'hui les gens qui font du field recording ils défendent beaucoup une position où, comme quoi les prises de son ne sont pas transformées, etc. C'est une posture qui est très ambiguë vis-à-vis du réel et vis-à-vis de sa représentation. Moi je ne m'interdis rien, mais par contre c'est en général au moment de la prise de son et au moment du travail de terrain que je vais essayer de révéler, de faire apparaître des choses qui m'intéressent et de les suivre. Et du coup, une fois que je me retrouve en studio, évidemment, je continue de suivre cette matière et d'essayer d'aller chercher ce qu'elle portait en germe dès le moment de la prise de son. Du coup, en général, j'ajoute peu d'effets, par exemple, parce que c'est pas quelque chose. En général, c'est pas de ce côté-là que s'est porté mon intérêt et mon écoute.
Mais en travaillant les sons, vous les décontextualisez pour ensuite les recontextualiser dans une création. C'est cette alchimie qui vous passionne particulièrement, ce travail autour des sons préexistants qui sont ensuite réagencés dans un autre devenir.
Oui, moi effectivement, quand je travaille dans une usine, je ne crois pas n'avoir de vérité particulière à dire des conditions de travail en usine ou de ce qu'est cet environnement-là, pas plus que quand je fais des prises de son dans la nature. Par contre, je crois au fait que cette rencontre entre un preneur de son, quelqu'un qui écoute, et l'environnement, pour peu que l'écoute soit active et que l'exploration sonore de l'environnement le soit aussi, produit quelque chose, et principalement ça produit un décalage par rapport à des préconceptions, à des attentes qu'on pourrait avoir avant, et ça permet de réactiver l'écoute tout en produisant une matière. Donc il y a plein de nouvelles potentialités qui se génèrent à ce moment-là, et puis ensuite en studio il y a un temps infini pour retrouver encore d'autres choses qui nous auraient échappé. Mais en tout cas, le geste de prise de son, le fait de travailler à partir de prise de son d'environnement, pour moi c'est quelque chose qui génère aussi des dimensions qui m'échappent. C'est vraiment ce qui m'intéresse dans le field recording, c'est vraiment le travail de terrain par opposition à ce qui serait complètement maîtrisé dans le travail de studio. C'est-à-dire que j'ai besoin que quelque chose m'échappe, j'ai besoin qu'une dimension de l'interaction sonore m'échappe, pour qu'ensuite il y ait une démarche créative qui puisse se construire à partir de là.
Vous menez également une pratique de réflexion et d'édition avec votre label Univers International. C'est important pour vous de sortir parfois du fer pur, de prendre du recul par rapport à votre travail ?
Le label Univers International, c'est un très vieux projet qui existe depuis le début des années 2000, mais qui travaille de manière très modeste et à un rythme assez lent, ce qui m'a permis effectivement de publier en général des objets un petit peu singuliers, à pas beaucoup d'exemplaires, mais qui m'a permis de publier des travaux auxquels je tenais. Et puis il y a aussi toute une dimension un petit peu annexe de mon travail qui est du côté de la réflexion, de la théorie et de l'écriture. Donc de temps en temps, je publie des choses un peu en dilettante, mais il y a des périodes où ça devient un petit peu plus important et c'est en général des moments un petit peu de détachement par rapport à mon travail de compositeur, c'est un peu des prises de recul. Donc voilà, avec un aller-retour justement entre cette ambition qu'il pourrait y avoir en tant que compositeur de considérer le son comme quelque chose de plus complexe que simplement un phénomène acoustique. Et puis, des fois, il faut aussi prendre le recul pour essayer de mesurer tout ça. Et du coup, ça se passe parfois aussi du côté de l'écriture.
Vous avez fondé un trio avec lequel vous faites dialoguer les phénomènes acoustiques, mécaniques, électriques et électroniques. Alors, racontez-nous un peu cette expérience.
Alors, le trio, Clay Patterson et Frédéric Nogret, malheureusement, pour plein de raisons, c'est un travail qui a peu avancé ces derniers temps, notamment parce que l'un des membres du trio habite en Angleterre, l'autre voyage avec un instrument, des bols en quartz qui sont énormes et pas faciles à déplacer pour trouver des temps de travail. Je pense qu'on aura encore l'occasion de retravailler ensemble. Et effectivement, c'est un dialogue entre différentes matières, mais qui sont aussi les différentes approches, alors pour le coup plus du côté de l'improvisation que Lee, Frédéric et moi-même avons. Donc matière minérale et acoustique pour Frédéric Nogret, plutôt des choses avec des micro-contacts, des moteurs, des phénomènes chimiques aussi pour Lee Patterson. Et moi avec un dispositif que j'ai développé assez récemment, notamment pour retrouver aussi une activité qui soit plus liée à des formes purement instrumentales et improvisées, puisque à force de passer du temps à faire du montage sur des ordinateurs, il y a quelque chose qui manque de l'ordre du corps et du geste. Et en fait, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je travaille à développer des instruments à partir de néons et de bobines électromagnétiques. Là aussi, encore avec envie que le dispositif ait une part autonome qui m'échappe un peu, puisque c'est des choses qui sont que très partiellement contrôlées. Et puis des filtres analogiques, des choses pour transformer le son en improvisation derrière tout ça.
Merci Pali Meursault.
Merci et à bientôt.
Merci à vous.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique étaient ce soir Cédric Châtelu, Stéphane Touvenin et Alexandre Bazin. Attaché d'émission Soizic Noël, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est l'heure maintenant de retrouver les Ala Brévé d'Anne Montaron.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.